Les inspirateurs du Führer par Guy de la Battue. Le Reichsführer qui arrive à puiser son inspiration politique dans l'histoire de la vieille Allemagne ne lui a jamais été plus fidèle que dans son action antisémite. Les Juifs vinrent en Allemagne par la Gaule et par l'Italie. Il y en eut même dès l'époque romaine, notamment à Cologne. Le système féodal, en leur interdisant la possession des terres, les poussa vers le commerce, les opérations de banque et de prêts interdites aux chrétiens. Les Juifs furent alors considérés comme des détenteurs et des manieurs d'argent et furent victimes de cette réputation. Ainsi, on les força parfois à contribuer aux frais du culte chrétien. La conversion au judaïsme de Wesselin, chapelain royal du duc Conrad sous Henri II, fut le signal des premières persécutions. Il est d'ailleurs juste de rappeler que Wesselin, au lieu de changer discrètement de religion, avait invectivé ses anciens frères en termes inadmissibles. Les souverains de Germanie réclamèrent au pape et au roi de France les Juifs comme un héritage de l'Empire romain. Philippe le Bel les leur accorda après leur avoir enlevé leurs biens. Frédéric II les déclara serfs. Ils étaient taillables et corvéables pour les empereurs, seigneurs, ecclésiastiques et laïcs, et les villes, sous prétexte d'une protection que d'ailleurs ils payaient déjà en monnaie réelle et demeurait la propriété de l'empereur, qui était leur emprunteur privilégié et prélevait des droits sur les créances des autres emprunteurs, quand il n'abolissait pas ou ne confisquait pas ses créances, ou n'expulsait pas les Juifs pour acheter leur retour. La proclamation de 1463 déclara que l'empereur pouvait sans réserve disposer de la personne et des biens des Juifs. Continuant d'attribuer à la conquête romaine le droit d'opprimer les Juifs, les empereurs confisquèrent normalement le tiers de ce qui appartenait aux Israélites, parce que Vespasien n'avait épargné que le tiers de la nation juive. Ils cédèrent maintes fois leurs droits sur eux et les utilisèrent comme gages. Avant la première croisade, les Juifs, en Allemagne, vécurent mal, mais du moins ils vécurent. La situation empira lorsque les croisés s'écrièrent « Les Juifs ont tué notre Sauveur, qu'ils se convertissent ou qu'ils meurent ». On prétendit avoir trouvé dans le tombeau du Christ un écrit réclamant la conversion des Juifs. Mais en France, où était née l'idée de la croisade, les massacres ont été rares. Il n'en fut pas de même en Allemagne. Les Juifs de Trèves, à l'approche des bourreaux, furent saisis d'une si grande crainte que certains égorgèrent leurs enfants et se tuèrent eux-mêmes. Tandis que des femmes et des jeunes filles, pour éviter le viol, se précipitèrent dans la Moselle. Les évêques souvent s'étaient montrés plus pitoyables que la population pour les persécuter, et il leur arriva même de les protéger. Celui de Trèves ne le voulut que s'il se faisait baptiser. Il y en eut qui feignirent d'accepter, les autres furent tués. L'évêque de Spire fit entrer les réfugiés dans son palais. Ceux qui étaient restés dehors se défendirent jusqu'à la mort, après avoir immolé leurs enfants. À la fin de la semaine, l'évêque somma les hospitalisés de se convertir. Ils se suicidèrent au nombre de 800. La populace, à qui l'évêque avait ouvert ses portes, s'acharna sur les cadavres. Des scènes du même genre se produisirent en divers lieux. 12 000 Juifs environ périrent en 3 mois dans les communautés de la région rhénane. Au retour de la croisade, l'empereur Henri IV s'indigna contre les persécutions et autorisa le retour au judaïsme des sémites baptisés par contrainte. Grâce à son intervention, le calme parut rétabli jusqu'à la deuxième croisade. Le moine Rodolphe excita de nouveau alors à la haine contre les Juifs, dont il réclama l'extermination comme déicide. Les prélats étendant sur les réprouvés la charité chrétienne furent combattus par Rodolphe, qui excita à la désobéissance contre les évêques. Il parvint à convaincre la populace, car elle entra dans le palais de l'archevêque Henri Ier, qui accordait asile aux Juifs et les massacra devant lui. Impuissant contre cette folie sanglante, l'archevêque implora l'autorité de saint Bernard, prédicateur de la croisade. Le saint répondit que Rodolphe était un fils indigne de l'Église, rebelle envers le supérieur de son couvent, désobéissant aux évêques et prêchant le meurtre contrairement à la loi de la religion, et que le massacre des Juifs était condamnable parce que l'Église désirait leur conversion. À la suite des croisades, les Juifs devinrent serfs de la chambre impériale, propriété effective de l'empereur, à qui, pour sa protection, il versait un tribut annuel. Ce qui nuisit le plus aux Juifs, ce fut l'accusation portée contre eux de meurtre rituel. On prétendait que, pour la Pâque, ils faisaient des sacrifices de sang chrétien. On les rendit ainsi responsables d'assassinats dont les coupables restaient inconnus. La légende courait qu'en faisant des sacrifices rituels, les Juifs disaient « Si le Jésus-Christ est le Messie, que le sang de cet enfant, car il s'agissait surtout de meurtre d'enfant, innocent et mort à la fois du Christ, me serve pour la vie éternelle. » Comme le dit Theodor Reinhardt dans son Histoire des Israélites, depuis la fin du XIIIe siècle, l'Allemagne occidentale, Bavière, Franconie et province rhénane fut la terre classique des accusations de meurtre rituel, de sacrilège et de trahison. Les accusations de ce genre étaient innombrables et suivies toujours de massacres de sémites. Voici un exemple de crime imputé aux Juifs. Un chrétien, seul, d'après le nommé Richer, aurait habité le quartier juif de Cologne. Il quitta sa maison où il laissa l'image du Christ, de la Vierge et de saint Jean. Un juif la loua, et pendant un repas avec des amis, après des blasphèmes, il aurait enfoncé son couteau dans l'image dont le sang coula. Les Juifs alors s'enfuirent, tandis que le clergé et la foule chrétienne envahissaient la maison pour constater le miracle. Un vase fut rempli avec le sang qui sortait de la plaie. On arrêta les Juifs et on tua ceux qui ne voulaient pas se convertir. Le port de la rouelle, pièce d'étoffe d'une couleur particulière sur le vêtement imposé aux Juifs par le 4e concile de Latran de 1215, désignait les sémites à la fureur fanatique. L'empereur Frédéric II, qui passe cependant pour un des princes les plus libéraux de son époque, éloigna les Juifs de tout emploi public et les accabla d'impôts. À la mort de cet empereur, pendant la rivalité des Guelfes et des Gibelins, des milliers de Juifs furent égorgés. On appela les massacreurs les Judenbretter, sobriquet dont ils se vantaient eux-mêmes. L'année 1270 fut particulièrement sanglante en Alsace. Pour justifier les crimes, on accusait les Juifs de favoriser l'invasion mongole et de profaner les hosties. Rodolphe de Habsbourg, s'il n'encouragea pas les attentats contre la vie des Juifs, ne s'en montra pas moins très dur pour eux. Il leur interdit de sortir de leurs habitations à l'époque de Pâques. Ils devaient alors rester dans leurs maisons, fenêtres et portes closes, bien qu'il eût reconnu, comme le pape Innocent X, ridicule, l'accusation de sacrifice humain. On continua pourtant de la répandre. Devant la menace de nouvelles persécutions, de nombreux Juifs décidèrent de quitter l'Allemagne pour la Palestine, où on annonçait la venue du Messie. Mais l'exode n'eut pas satisfait l'empereur, car cette émigration lui aurait fait perdre une de ses sources de revenus les plus appréciables. Le 19 juin 1286, le célèbre rabbin Meir, qui conduisait les émigrants, fut enfermé dans la tour d'En Islam, où il mourut après 5 ans de détention. Les biens de ceux qui avaient quitté le pays devinrent la propriété de l'empereur, en échange de sa protection, du châtiment des massacreurs et de la libération de Meir. Les Juifs donnèrent à Rodolphe 20 000 marks d'argent. L'empereur Louis, que l'on traitait pourtant de philosémite, imposa aux Juifs une taxe d'un denier d'or. Tout Juif allemand qui possédait 20 florins, à partir de l'âge de 12 ans, en devait un comme impôt annuel. En 1336, profitant de l'assassinat d'un gentilhomme, l'aubergiste Armider souleva 5 000 paysans armés, qu'on nomma les Judenschläger, contre les Juifs rhénans qu'ils tuèrent en grand nombre jusqu'à l'arrivée de l'empereur Louis. Celui-ci partit, ils recommencèrent la tuerie, ils ne furent dispersés que par une ligue de seigneurs et de magistrats municipaux dont l'évêque était le chef. À la même époque, à Deckendorf, en Bohême, il y eut un soulèvement contre les Juifs parce qu'ils passaient pour avoir percé une hostie. Les antisémites tuèrent, pillèrent et brûlèrent, et Deckendorf devint par la suite un lieu de pèlerinage. Les plus atroces persécutions eurent lieu à l'apparition de la peste noire de 1348. Comme les partisans du Führer le firent récemment, on accusa les Juifs d'avoir empoisonné les puits, les sources et les rivières. Le mal, qui venait d'Asie, tua en Europe 25 millions d'hommes. On prétendit avoir la preuve écrite que le fléau avait été déchaîné par les Juifs à l'instigation des rois morts de Tunis et de Grenade pour faire périr la chrétienté. Les autorités laïques et ecclésiastiques, qui voulurent s'opposer à l'explosion du fanatisme, furent impuissantes. L'expulsion des Juifs en Haut-Rhin fut décidée. Ceux qui résistèrent furent brûlés ou assommés. Les échappés de la tuerie se donnèrent la mort après avoir enterré leurs trésors. On mit les cadavres dans des tonneaux que l'on jeta dans le Rhin. 300 juifs se défendirent à Mayence, mais au moment de succomber sous le nombre de leurs adversaires, ils mirent le feu à leurs maisons dans lesquelles ils périrent. C'est en vain que, contre ces excès, le pape Clément VI avait promulgué une bulle qui frappait les assassins d'excommunication. La haine contre les juifs était stimulée par la confrérie des flagellants qui se fouettaient et se livraient en public à de cruels exercices de pénitence. Quand la peste noire eut cessé, les persécutions continuèrent. Les empereurs furent plus maîtres que jamais de la personne et des biens des juifs. Ils trafiquèrent aussi avantageusement de leurs créances. Les expulsions même étaient matière à bénéfice. Les juifs devaient racheter le retour et le pardon, car les expulsions avaient durement appauvri le trésor. Au XVe siècle, la guerre des Hussites servit de prétexte à de nouvelles persécutions, et les prédications du moine Capistrano marquèrent une recrudescence de l'antisémitisme en Allemagne. Cette campagne fut favorisée par des accusations de profanation d'hostie et de meurtre d'un enfant enfermé dans un tonneau à pointe. À la fin du XVe siècle, par suite des massacres et des expulsions, il n'y avait plus en Allemagne que trois communautés juives importantes, celles de Worms, de Francfort et de Ratisbonne. Encore, dans cette dernière ville, les Juifs subirent-ils de durs sévices à la suite d'accusations portées par deux Israélites convertis, Peter Schwartz et Hans Bayol, qui déclarèrent qu'un rabbin avait égorgé un enfant chrétien. L'accusation fut reconnue fausse, mais un enfant s'étant noyé dans le Rhin, ce fut une nouvelle occasion pour les fanatiques d'exercer leur haine. La torture ayant arraché des aveux aux Juifs, on ordonna l'arrestation de toute la communauté et la confiscation de ses biens. Mais l'empereur Frédéric, malgré de nouvelles inculpations mensongères contre les Juifs, prescrivit de les libérer en proclamant « Il est de mon droit et de mon honneur de ne plus laisser massacrer la population juive, et comme les bourgeois de Ratisbonne se sont montrés longtemps rebelles à mes ordres, je leur défends de juger dorénavant les Juifs », et il imposa une forte amende à la ville. La communauté juive refusa d'être libérée sous la condition de payer l'amende à la ville de Ratisbonne et les frais du procès. Elle resta incarcérée pendant 2 ans, jusqu'en 1480, époque à laquelle elle jura de demeurer avec ses biens dans la ville. Mais quand Frédéric III fut mort, on obtint de l'empereur Maximilien l'expulsion de presque toutes les familles juives de Ratisbonne. On a pu dire avec quelques raisons que c'est au commencement du XVIe siècle, en Allemagne, un épisode de la lutte contre les Juifs qui déclencha le mouvement de la Réforme. Un Juif converti, Joseph Pfefferkorn, attaqua violemment dans ses écrits ses anciens coreligionnaires. Il dénonça leur obstination, leur esprit d'usure, leur blasphème et leur attachement au Talmud, dont il demanda la suppression ainsi que celle de tous les livres religieux d'Israël, sauf de la Bible. Pfefferkorn obtint de l'empereur en 1509 l'examen et la saisie des livres juifs et la destruction de ceux qui contiendraient des assertions hostiles au christianisme. Les juifs invoquèrent la liberté religieuse qui leur était reconnue et Maximilien ordonna une enquête auprès des universités allemandes, de l'inquisiteur Hochstraten et du savant Jean Reuchlin. Celui-ci se prononça contre la condamnation du Talmud et fut amené ainsi à prendre la défense des juifs. L'indépendance de cette attitude lui valut, en 1513, d'être invité par Hochstraten à se présenter à Mayence pour y être jugé comme ami des Juifs et des hérétiques. La réputation de Reuchlin étant grande dans toute l'Allemagne, de nombreuses protestations s'élevèrent en sa faveur. Le pape Léon X appela l'affaire du grand savant devant un autre tribunal, qui déclara que le pamphlet reproché à Reuchlin ne contenait aucune hérésie et qu'il avait été calomnié. À l'époque où Reuchlin combattait la thèse de Pfefferkorn, 38 juifs des marches de Brandebourg furent brûlés sur l'ordre du margrave Joachim Ier et l'expulsion générale fut décidée parce qu'une hostie avait été soi-disant percée. Les juifs revinrent quand même, car après l'empoisonnement d'un électeur, une nouvelle expulsion eut lieu dans le Brandebourg en 1573. En 1512, les juifs furent chassés de Colmar, en 1551 du Württemberg et de la Bavière, en 1556 de la Basse-Autriche. Au début de son activité religieuse, Luther protesta contre les mauvais traitements envers les Juifs et les conversions forcées. Mais le langage du réformateur changea, car il accusa bientôt les Juifs d'avoir donné l'exemple des persécutions et leur reprocha d'avoir cherché asile en Allemagne. Il prétendit que les Juifs s'attribuaient le droit de tuer des chrétiens, de les voler, d'être parjures à leur égard. Il conseilla de leur ôter le Talmud et leurs livres de prière, de brûler leurs maisons et de les parquer dans les étables. Il fallait retirer l'enseignement aux rabbins, empêcher les Juifs de se montrer même dans les rues et leur imposer les plus dures corvées. Luther écrivit en 1542 le pamphlet « Sur les Juifs et leurs mensonges ». Quel langage plus violent que celui-ci avait-on pu employer contre eux avant lui ? Les Juifs sont des brutes. Leurs synagogues sont des étables à porcs. Il faut les incendier, car Moïse le ferait s'il revenait au monde. Ils traînent dans la boue les paroles divines. Ils vivent de mal et de rapine. Ce sont des bêtes mauvaises qu'il convient de chasser comme des chiens enragés. Peu à peu, cependant, malgré les violences de son initiateur, l'esprit de la réforme devait produire quelque tolérance à l'égard des persécutés. Mais il fallut attendre longtemps encore ce salutaire effet. En Bohême, la communauté juive fut deux fois expulsée puis rappelée. À Vienne, les Juifs ne purent résider que temporairement après avoir fait la déclaration du motif qui les amenait dans la ville. À Berlin, il leur fallut choisir entre le baptême ou l'expulsion. À Francfort, ils furent réunis dans des ghettos où il leur fut défendu de recevoir des étrangers sans autorisation spéciale. Ils n'avaient le droit d'en sortir que pour affaires et étaient astreints à des impôts particulièrement lourds. Leur permis de séjour était temporaire et révocable. Leurs maisons portaient des enseignes peintes avec des écriteaux désignant les propriétaires. L'écu rouge, Rothschild, en allemand, marquait le domicile de la famille qui devait porter ce nom. En 1614 et en 1615, les corporations d'artisans procédèrent à l'expulsion des Juifs de Francfort. L'empereur Matthias s'en fit rentrer 500 et n'autorisa pas plus de 12 mariages juifs par an. Au milieu du XVIIe siècle et au XVIIIe, la situation des Juifs s'améliora enfin d'une façon sensible par suite du mouvement philosophique et aussi des nécessités économiques. Les Juifs n'en conservaient pas moins le souvenir des longues et cruelles persécutions. Selon la formule de Talleyrand, cette chasse aux Juifs fut plus qu'un crime, ce fut une faute. L'Allemagne s'en aperçut, car de 1871 à 1918, les Juifs d'Alsace, se rappelant ce qu'ils avaient souffert sous la domination allemande, gardèrent dans leur cœur le doux souvenir de la tolérance française, mais il semble que le Führer ait considéré comme inutile de tirer une leçon politique de ces faits. Ainsi s'achève « Les inspirateurs du Führer » par Guy de la Battue.